l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, qui change de nom, qui devient Transistor avec C'H à la fin. Nous sommes une radio en transition, vous le savez. Le C'H final, c'est pour le côté finistérien. Le LEM reste le même, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, nous champignonnons, enfin je propose qu'on invente ce verbe. C'est une émission en partenariat avec la Maison de l'Agriculture Biologique du Finistère, la MAP 29, dont on met régulièrement en lumière les adhérents. Enfin, quand je dis en lumière, cette fois on va plutôt rester dans le noir, car ainsi préfèrent les créatures auxquelles s'intéresse Brice Bell, notre invité, les champignons. Brice Bell est une entreprise brestoise, enfin, de Ploudiry aussi, tout à fait fascinante, représentée aujourd'hui par Jefferson Le Bihan. Bonjour.
Bonjour.
Alors un petit mot de la biologie de ces créatures que sont les champignons, qui ne sont pas des végétaux.
Ouais, alors les champignons, c'est assez particulier effectivement. Il y a le règne végétal, animal et règne fongique. Donc ça prend en compte énormément d'espèces, on est à peu près sur 370 000. Les champignons, si on compare les champignons aux arbres, le mycélium, c'est littéralement le corps du champignon, c'est l'arbre. Le champignon qu'on appelle vulgairement champignon, en fait c'est son fruit, c'est son organe de reproduction. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, les champignons ont besoin d'un petit peu de lumière, ça va dépendre desquels. Pour faire court, il y a quatre classes, les saprophytes de bois ou de litière qui vont décomposer tout ce qui est à la surface, donc ce que nous, là où on foule le sol, qui vont les décomposer en matière organique, les mycorhiziens qui eux vont agir dans le sol, qui vont être nourris par les arbres, pour ensuite redistribuer sels, minéraux, mais aussi informations aux différents végétaux. Les endophytes, qui eux vont être globalement sur... je les surnomme les Casper des champignons. On sait qu'ils sont là, on ne sait pas comment les cultiver, mais ils protègent en fait les plantes et tous les végétaux, de la cime jusqu'aux racines des arbres. Et ensuite les parasites, on en a très peu ici, un petit peu, qui eux par contre vont littéralement attaquer les êtres vivants, végétaux, mais aussi... animaux pour la Chine, par exemple.
Parfois même les humains, d'ailleurs.
Dans l'Eurasie. Alors, les humains, c'est un peu particulier. Par contre, effectivement, les personnes immunodéficientes peuvent potentiellement être attaquées par certains champignons. C'est pour ça que notre nouvel associé qui vient d'arriver dans la boutique, lui, était spécialisé en pathologie fongique. C'est-à-dire qu'il étudiait quels champignons, en fait, quels micro-organismes fongiques pouvaient potentiellement attaquer les personnes immunodéprimées. Donc, il les sauvait de ces attaques.
Mais on est encore loin du jeu, d'un certain jeu vidéo qui parle d'un virus de champignon. Enfin, d'un virus, justement, c'est pas un virus, quoi. D'une attaque champignonnaire.
Non, on en est loin.
Et à Brice Bell, vous êtes plutôt... C'est quoi les profils, en fait, des associés de Brice Bell?
Déjà, si je me présente, on a conçu l'entreprise, donc là, imaginez, il y a 8 ans, et on l'a conçu il y a 3 ans, avec Xavier Lambert. Moi, je suis électrotechnicien aéronautique sur 7 types d'hélicoptères différents, navigateur, radariste aussi. Ensuite, j'ai passé un BTS de commerce pour construire la structure, mais aussi autant économique que juridique. Et ensuite, pour finir, j'ai passé un diplôme champignon.
Formation. C'est un diplôme champignon.
C'est une formation de production de champignons que nous on trouvait un petit peu faiblard en pratique. Donc c'est pour ça qu'après on viendra plus tard. On propose des formations aussi. Xavier Lambert, le directeur général, lui pour le coup, c'est vraiment le touche-à-tout de l'entreprise. De base, il est mécanicien naval, mécanicien aéronautique sur plusieurs types d'hélicoptères, cordis, soudeur, charpente, menuiserie. C'est vraiment lui qui est au niveau gros œuvres et production. Et le dernier qui vient de rejoindre la boutique, c'est le docteur Pierre Bonnet, qui vient de passer son doctorat en microbiologie. Il travaillait donc à la Cavale Blanche, à l'hôpital Cavale Blanche, au CHU, justement sur la cellule pour tout ce qui est infection fongique des personnes immunodéprimées. Mais il était aussi professeur donc à l'UBO, en microbiologie. Donc là, il a rejoint l'équipe en début de mois. Là.
Donc vous étiez plutôt dans l'aérien, enfin deux d'entre vous, et puis vous vous enfoncez dans le sol, plus ça va, plus ça... Mais en fait, en général, ouais, quand on étudie, pour étudier les champignons, c'est quoi ? C'est des études de biologie, enfin, c'est...
Oui, effectivement, ouais. Normalement, c'est biologie, hein. C'est biologie. Après, nous, par exemple, je sais que Xavier avait fait un bac pro agricole à l'époque, et on ne parlait pas, en fait, des champignons. Lui, alors qu'il avait déjà son projet champignon, ouais. Donc on lui a dit, bah, en fait, désolé, mais on ne pourra pas t'apprendre grand-chose. Donc c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle lacune en fait sur ce sujet-là. C'est quand même un règne à part.
Mais oui,
sur les trois règnes. Ouais.
C'est même plus proche du règne animal que du règne végétal, je crois, non ? C'est ça ? Ils se sont séparés, non ?
On est vraiment entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que les champignons, par exemple, quand il y a 2,5 milliards d'années, quand la vie a commencé à coloniser le sol, en fait, les premiers organismes vivants à coloniser la terre, donc là, qui était une roche à l'époque, c'était le lichen. Qu'on a toujours aujourd'hui, d'ailleurs, qui a quasiment pas bougé. Et en fait, le lichen, c'est un, si je l'explique assez vulgairement, c'est un mix entre une micro-algue et un micro-organisme qui est, entre guillemets, on va dire assez grossièrement, de type fongique. Et c'est cette mutualisation qui a permis à l'algue de produire du glucose via photosynthèse pour le micro-organisme qui récupère le glucose et lui, en contrepartie, va casser la roche pour lui apporter minéraux et nutriments. Donc c'est comme ça qu'en fait la vie a colonisé le sol à la base, et ensuite il y a eu toute une diversité génétique et biologique qui s'est créée.
Donc une vieille histoire à laquelle on s'est finalement peu intéressé jusqu'à présent. Enfin ça y est, maintenant on commence enfin à s'y intéresser.
On s'y intéressait beaucoup en fait. Au contraire, on a par exemple le premier manuel de médecine chinois a énormément de champignons en fait dans sa pharmacopée, et d'ailleurs toujours actuellement. Par contre, c'est vrai que ça s'est pas mal perdu. Les agriculteurs à l'époque, eux aussi, avaient cette connaissance-là. On l'a beaucoup perdu, et nous, on essaye surtout de rattraper le retard, en fait.
Ouais.
Et cette perte de connaissance qu'on a perdue au fil du temps. Et depuis 30 ans maintenant, on va dire que la médecine moderne, traditionnelle, est en train de s'intéresser fortement à ces organismes-là. Et nous, on est là pour soutenir ces recherches-là.
Les antibiotiques, ça appartient aux champignons ou pas, en fait, la pénicilline ou les...
Alors, les champignons, en fait, naturellement, sécrètent des enzymes et des antibiotiques. Les enzymes vont lui servir à dégrader la matière pour pouvoir récupérer les nutriments. Et ensuite, ils vont sécréter des antibiotiques, effectivement, pour, prédominer, donc se protéger par rapport aux autres champignons dans la nature. Donc, c'est comme ça qu'ils vont, entre guillemets, favoriser leur territoire, se multiplier.
Donc, on entrevoit la grandeur du sujet. Alors, à Bresbel, vous avez commencé, pour la première activité, c'était de la production alimentaire, c'est ça ?
Oui, de toute façon, il fallait bien commencer par la base, qui est de produire. Donc nous, on a commencé les productions dès le départ, au bout d'un an, et demi. Là où, en fait, où dans l'entreprise, ça change un peu, c'est que comme on était technicien aéronautique, on s'est dit, assez naturellement, nous, en fait, quitte à produire champignons, on va construire toutes nos machines nous-mêmes. De par notre engagement écologique, et surtout en tant que technicien, on trouvait ça dommage de ne pas utiliser notre savoir-faire pour créer des machines qu'on pouvait réparer.
Des machines ? Des machines à produire les champignons ?
Alors, c'est pas pour produire, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a conçu, imaginé, conceptualisé toute une ingénierie low-tech pour les champignons. Donc ça passe de la conception d'un laboratoire stérile, donc la création d'une qu'on appelle une hôte à flux laminaire, qui permet d'apporter un air stérile dans le laboratoire, mais aussi pour tout ce qui est machine de traitement thermique, donc pasteurisation, stérilisation. On a aussi conçu nous-mêmes nos incubateurs, un peu comme des couveuses à œufs, qui maintiennent une bonne température pour notre mycélium, entre guillemets le corps du champignon, je le rappelle.
Ouais, parce qu'en fait, il faut juste réexpliquer vite fait. En gros, pour cultiver des champignons, il faut un substrat pour le mycélium, c'est ça ?
C'est ça.
Et après, les organes visibles se développent, quoi.
En gros, un champignon, pour l'expliquer assez simplement, nous, en gros, on veut cultiver un seul micro-organisme. Mais il y en a tellement rien que dans l'air qu'on respire que pour ce faire, on est obligé d'abord travailler en laboratoire, en milieu stérile, pour le permettre de développer ce micro-organisme-là de façon efficace, sans contamination. Et ensuite, au fur et à mesure, on lui donne d'autres choses à manger, donc du grain stérilisé au début, et ensuite, effectivement, des biodéchets. Donc nous, on s'est vraiment axé sur les biodéchets, qui sont en fait de la paille, marc de café, drèche de bière.
Et vous dites low-tech pour tous vos équipements et votre machinerie. Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est de la récup? Comment on fait des équipements comme ça, low-tech?
Ben, c'est déjà, en fait, regarder ce qu'on a de base autour de nous. Et avec ça, en fait, c'est imaginer et concevoir une machine qui nous permet justement d'atteindre un objectif précis. Par exemple, je prends l'idée d'un pasteurisateur. Un pasteuriseur, tout simplement, ça va être en fait une chambre à un volume dans lequel on doit maintenir une température entre 75 et 93 degrés avec un gros taux d'humidité pour justement qu'on puisse traiter thermiquement le plus facilement possible les biodéchets. Donc pour ça, en fait, bah nous, par exemple, on a tout simplement pris une cuve à eau qu'on a trouvée d'un maraîcher qui était en bio, et justement, il n'y avait pas utilisé de pesticides à l'intérieur, ni d'engrais chimiques. Et ensuite, on l'a trafiqué avec un réchaud, et ce qui nous permet en fait d'injecter de la vapeur dans ce volume-là.
Tout simplement.
Ouais.
Ok, ouais, c'est pas si simple que ça. En fait. C'est vrai, quand on dit basse technologie, c'est pas toujours si simple que ça. Donc vous cultivez quand même des champignons pour la vente, c'est
oui.
ça? Et vous vendez aussi du mycélium, enfin de quoi faire soi-même ces champignons.
C'était un peu un engagement dans le sens où nous, on n'a pas pour vocation de devenir des gros agro-industriels. Au contraire, on souhaite justement être semi-industriel, c'est-à-dire montrer que c'est possible en fait de produire en quantité sans, avec un minimum en fait d'empreinte d'impact carbone une meilleure empreinte écologique. Et nous, notre volonté, c'est au contraire de favoriser, de multiplier les producteurs de champignons à partir de déchets partout en France, voire même dans le monde. On a par exemple formé quelqu'un du Sénégal.
Mmh. Oui, parce que là, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que Bresbel est labellisé Calliope, à savoir organisme de formation.
Ouais.
Donc qu'est-ce que vous l'avez dit un petit peu, les formations en champignons jusqu'à présent vous paraissaient un peu faibles. Qu'est-ce que vous proposez comme type de formation?
Alors au niveau théorique, les formations sont assez, sont assez précises, ont du contenu. Par contre, nous on trouvait que ça manquait cruellement de pratique, que ce soit au niveau des rendements, que ce soit au niveau des différents process en fait et mesures d'hygiène. Donc nous on s'est dit, on va passer déjà d'abord Calliope effectivement. Donc c'est une certification pour les formations professionnelles. Voilà, la belle de qualité. Et ensuite, on s'est dit, quitte à, on veut rentrer en partenariat avec le CFA de Carlivert, ouais. Qui est le centre de formation agricole de Anvec, qui est vraiment écologiquement parlant, extrêmement engagé. Donc nous, on a tout de suite voulu en fait travailler avec eux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en partenariat et qu'on propose des formations qui sont certifiantes, ce qui permet en fait à n'importe quel porteur de projet, mais aussi des porteurs de projets qui souhaitent produire des champignons, mais aussi des maraîchers qui souhaitent compléter leur production. Nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec eux sur leur projet, et à la fin, ils obtiennent un module UCAR de production champignons.
Et c'est quels champignons qui sont produits, enfin que vous-même vous produisez ou que vous aidez à produire en général
A 5 types de pleurotes différents. Ensuite, on a le
pleurote, ouais.
Après, il y en a 5.
Je savais pas qu'il y en avait autant, des pleurotes.
Techniquement, 35.
Ah ouais, d'accord. ils sont pas tous comestibles, les pleurotes, c'est ça, non?
Sur les 30, alors peut-être pas tous, mais sur les 35 dont je parle, si. Ensuite, on fait aussi le shiitake, nameko, maitake, nokitake, reishi. On en a une quinzaine donc de gastronomiques médicinaux. Et ensuite, on est à peu près sur 5 d'aide au maraîchage. Alors l'aide au maraîchage, tout simplement, je prends un exemple, le Trichoderma arsianum. C'est la moisissure verte que vous voyez sur vos pots d'orange citron au bout de 2 semaines. Et en fait, c'est un cousin. De cette espèce-là qui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, produit des antibiotiques assez dingues, ce qui implique qu'en fait, c'est un antifongique naturel.
Donc ça protège les plantes, en fait.
Grosso modo, le sulfate de cuivre qu'on utilise actuellement en agriculture bio, on peut utiliser ce champignon-là. On l'a testé, par exemple, à côté de Guy Pava, chez un maraîcher pour ses tomates. Il était très content parce que cet été, c'était un des rares à avoir des tomates.
Ah oui, donc en fait, on met ces écorces d'orange un peu moisies à côté de ses tomates et tout va bien.
Non. C'est-à-dire que nous, on cultive cette souche-là en particulier. D'accord. Qu'on apporte à l'agriculteur, donc avec des conseils aussi au niveau de la culture. Et ensuite, ça agit exactement comme le sulfate de cuivre, mais c'est naturel et applicable en bio.
Ah oui, et alors en bio justement, enfin, vous l'avez un peu dit, vous parliez de chambres stériles et tout, donc on se dit finalement les champignons, ça devrait être que bio, enfin, il n'y aurait pas besoin de pesticides pour les cultiver, au contraire quoi.
Bah au contraire, eux, moins on va rajouter de pesticides, d'antifongiques, surtout d'antifongiques,
ouais.
Et mieux ils vont se porter, ils n'aiment pas le chlore non plus, donc ce qui est un des gros composants quand même de l'eau actuellement dû au traitement des eaux, ce qui est logique, mais eux, ils n'aiment pas ça du tout, donc nous on a préféré plutôt un système de récupération de pluie filtrée pour ensuite brûler, apporter de l'humidité.
Donc forcément, vous envisagiez de faire des champignons bio et vous avez adhéré à la Maison de la Bio un peu dans cette logique, j'imagine.
Pas tout de suite immédiatement. Nous, en fait, les champignons, c'est un pan dans la nature. C'est des espèces qui font partie d'un écosystème complet. Donc nous, en fait, de par notre engagement, c'était évident pour nous de faire partie de la Maison de la Bio. Et on envisage même l'année prochaine d'être les premiers myciculteurs producteurs de champignons labellisés Nature et Progrès.
Ah oui, et à la Maison de la Bio, je sais pas, il y a combien, vous avez une idée de combien de producteurs de champignons il y a à la Maison de la Bio dans le Finistère ou...
Bah, j'en ai pas entendu des masses dans la Maison de la Bio. Je pense qu'on doit être un ou deux, peut-être
ah ouais.
trois.
Ouais, vous pas compté. Et sinon, dans le Finistère, vous avez une idée des producteurs de champignons en général ou...
Bah, il y en a de plus en plus. Hein. On était à 17, là on passe à au moins des assez volumineux. Ensuite, il y a plein de petits producteurs. Donc nous, on pense à peu près une cinquantaine sur la région Bretagne, à peu près une cinquantaine. Et nous, au contraire, c'est pas un problème pour nous. Au contraire, bah, on fournit des semences, mais surtout, on a besoin en fait de plus de producteurs pour notre projet de régénération des sols qui sera en finalisation, on va dire. On croise les doigts pour que notre procédé marche, mais on est convaincus. Et là, l'objectif, c'est que dans 5 ans, en fait, on puisse vraiment agir pour améliorer l'état des sols actuels, autant agricoles qu'urbains.
Alors ça, voilà, on arrive justement à ce fameux chapitre, parce que Bresbel, donc certes, produit des champignons, des mycéliums, enfin des semences pour permettre aux autres de produire leurs champignons. Mais vous êtes une start-up pleine d'idées, en fait. Hein, et vous avez, on peut dire, un département de recherche et développement. Enfin, c'est ça, en gros. Enfin, déjà, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de tout ce qu'on pourrait faire avec les champignons si on les utilisait vraiment? Enfin, les champignons, mycéliums, tout ça.
Ben, alors, on va dire que c'est un métier assez particulier. Nous, en tout cas, on conseille aussi les professionnels sur l'utilisation du mycélium et des champignons. Mais effectivement, avec les champignons, on peut faire des mycomatériaux, ce qu'on appelle des matériaux. C'est-à-dire qu'à partir de... Une fois que le mycélium en fait, a mangé des biodéchets, comme par exemple de la sciure de bois, il y a certaines variétés qui peuvent, en fait, après un traitement thermique et une pression dessus, faire l'équivalent d'un polystyrène, voire même l'équivalent du liège en termes de dureté, et sachant que c'est des matériaux qui sont ignifuges.
Oui.
On peut l'utiliser comme isolation, on peut l'utiliser comme matériau de construction. Donc ça, c'est un premier pan. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, aussi en maraîchage, c'est-à-dire en aide aux maraîchers.
De la phyto, comment on appelle ça, phyto médecine.
On utilise en grosso modo un système de permaculture, c'est-à-dire que là, contrairement au système de permaculture, on va utiliser par exemple les trois sœurs, les champignons vont pouvoir en fait tout simplement apporter leurs propriétés en fonction de ce qu'on souhaite éviter, par exemple comme le mildiou. C'est les antibiotiques qui vont produire, qui vont permettre de protéger justement les plants contre ces pathogènes.
Donc après, j'imagine qu'il y a des milliers potentiellement d'aides agricoles. Enfin, vous en utilisez que quelques-unes. Enfin, vous en proposez quelques-unes.
Pour l'instant, là, on est sur une vingtaine
de
mycélium. On vit une centaine l'année prochaine, fin d'année prochaine. Et nous, là où on se penche, comme je le disais tout à l'heure, c'est régénération des sols, mais aussi conseil en dépollution.
Alors, régénération des sols, comment ça marche? Sans nous donner tous les secrets.
Non, là, on est en pleine phase de développement. Tout ça. Alors déjà, de base, nous, c'était vraiment là où on voulait aller quand on a conçu l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un gros problème en fait, au niveau des sols, qui est la désertification, donc l'érosion des sols. L'érosion des sols, c'est multifacteur. Le premier facteur, c'est un labourage trop profond des sols.
On parle des sols agricoles, hein. Oui, oui.
Agricole, même urbain.
Ah, oui, oui.
Parce que quand
oui.
on met du béton sur un sol,
oui, bien sûr.
On augmente le pH de façon assez violente, ce qui fait que le sol ne peut plus, en fait, s'irriguer, donc ne peut plus être hydraté. Et donc, on favorise les bactéries anaérobiques. Et en plus de ça, le sol devient en fait quasi stérile.
Ah oui. Ouais. D'accord. Bon. Mais pour un sol agricole, c'est d'autant plus un problème parce qu'on ne peut plus rien cultiver. C'est ça, en gros, quoi. Enfin, ils s'appauvrissent, les sols. Enfin, c'est...
Les sols s'appauvrissent pardon, en matière organique. Alors ça, tout simplement, c'est un labourage trop profond et des véhicules qui sont trop lourds. Donc comme les tracteurs. Le problème, en fait, c'est qu'on va venir remonter les micro-organismes qui ne sont pas habitués à la chaleur, mais également aux UV. Ce qui veut dire que c'est comme si vous, en fait, on vous prenait d'un coup et on vous balançait dans la stratosphère. On n'est pas du tout adapté, en fait, pour ces conditions-là, pour ces environnements-là. Ce qui fait que les micro-organismes, c'est exactement la même chose. On va les remonter trop en surface, ce qui fait qu'on va même stériliser un sol. À partir de 42 degrés, on stérilise un sol. Donc là, avec en plus les canicules, on n'en parle même pas.
Bien parti, oui.
Mmh. Voilà, c'est bien parti. Donc ça, c'est un premier pan. Donc c'est un premier fait. Les véhicules vont venir en plus tasser ce sol-là, ce qui fait que lorsqu'il va pleuvoir, en fait, le sol ne pourra plus être vraiment tassé et en plus de ça, moins aéré, ce qui fait qu'il ne va plus pouvoir s'irriguer correctement.
L'eau ne s'infiltre pas.
L'eau ne s'infiltre pas. Mmh. Donc on a le problème des coulées de boue. Qui arrive. En plus de ça, vu qu'on enlève les talus, ça accentue le problème. Donc ça, c'est le premier. Premièrement, et ensuite, on rajoute en plus, herbicides, fongicides, pesticides pour certaines cultures, ce qui fait que là, en plus, on défavorise en fait toute cette biodiversité. Donc nous, on n'est pas là pour taper sur les doigts. On n'est pas là pour dire aux agriculteurs qui font n'importe quoi. Mais au contraire, on est plus là pour essayer de les accompagner dans ce changement. Essayer aussi de trouver des solutions économiques parce que c'est bien de vouloir...
il faut que ça marche, bien sûr.
Il faut que ça marche et surtout... il faut que lui aussi, pendant nos essais, nos procédés, il faut aussi que eux puissent générer de l'argent.
Travailler.
Travailler.
Ouais, ouais. Donc vous allez apporter du mycélium dans les sols. Enfin, ça va être.
C'est un travail de fond. Donc déjà, on va être. On démarre l'année prochaine un travail en commun avec le laboratoire LAMS de Claude et Lydia Bourguignon. Donc on les a appelés. Et là, Xavier, qui est notre permaculteur, le touche-à-tout, c'est lui qui est vraiment spécialisé de plus en plus dans les sols. Il est maître composteur aussi, entre guillemets. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment aller chez les meilleurs, finaliser sa formation et surtout notre idée, et ensuite de co-travailler avec eux sur ce système-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si en fait on veut appliquer les pouvoirs des champignons en extérieur, le gros problème qui va arriver, c'est qu'on est d'abord obligé de les cultiver en intérieur.
Oui, donc il faut un peu de surface, quoi.
Ouais. Le mycélium, grosso modo, c'est un peu comme quand on le cultive en laboratoire, c'est un peu comme un nourrisson. Donc on ne peut pas le balancer tout de suite en extérieur comme ça. On est d'abord obligé de le cultiver en intérieur pour ensuite l'appliquer en extérieur, le temps qu'il s'acclimate aux micro-organismes et bactéries environnantes. Donc c'est ça le gros enjeu, c'est que effectivement on sait que là on a beaucoup de surface dans les années à venir, dans la décennie à venir
à soigner,
mais le problème c'est que il faut de la biomasse.
Ah oui, c'est ça.
C'est pour ça que nous on s'est tout de suite penché sur former, c'est-à-dire en fait autant un agriculteur qui souhaite par exemple compléter sa gamme de produits en hiver, là où il a le moins de production, le moins de culture. C'est l'accès, le guider à comment est-ce qu'à partir de sa paille, par exemple, ou ses biodéchets, ses broyards, il peut produire des champignons. Et à partir de ces déchets-là, nous, en fait, soit on les réutilise, soit il les réutilise dans ses cultures, soit nous, on viendra dans les années à venir récupérer cette biomasse-là pour soigner les sols.
Et vous parliez de restaurer les sols d'un côté, dépolluer de l'autre. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps?
Tout à fait. Ouais, en fait, c'est pour la dépollution, c'est assez fin. C'est pour ça qu'on a un microbiologiste qui rejoint l'équipe.
Ouais, bien sûr.
Il faut déjà identifier quel polluant on a, ensuite à quel taux, à quelle concentration. Est-ce qu'on n'a pas d'autres polluants qui peuvent empêcher les champignons justement de bien se développer, comme le sulfate de cuivre par exemple. Et à partir de là, c'est tout un pan de recherche sur quel champignon est le plus adapté au type de polluant, comment est-ce qu'on va le cultiver, et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer dans notre procédé. Donc c'est ça qui est extrêmement complexe. Et ensuite, on se développe aussi beaucoup, c'est par exemple des centrales d'épuration qui nous demandent des conseils sur des méthodes pour éliminer ou stocker les polluants, les métaux lourds qui sont présents dans les boues issues de la filtration,
ouais.
Des eaux par exemple de parking ou d'usine. Mm-hmm. Et donc là, ça va être littéralement notre job de concevoir avec eux les meilleurs systèmes pour les aider.
Et donc potentiellement, les champignons pourraient tout dépolluer.
Chaque champignon a son domaine de prédilection. Par exemple, les pleurotes peuvent digérer les hydrocarbures, matières à base d'hydrocarbures.
Génial.
Donc ça, c'est quand même assez incroyable.
Et rester comestible après, quand
non,
même
on ne conseille pas. On ne conseille pas, mais là, au contraire, c'est plutôt essayer de...
Ils décomposent, quoi, en fait.
Ils vont décomposer les hydrocarbures. Par contre, c'est vrai que les métaux lourds, ils vont les stocker. C'est pour ça qu'on déconseille aux personnes de consommer des champignons au bord de route. Parce qu'ils ont, en fait, se sont imprégnés littéralement de tous les métaux lourds et tous les polluants, en fait, que les voitures rejettent. Donc, ça, c'est aussi... Nous, cette sensibilisation-là, en fait, qu'il faut qu'on apporte, c'est-à-dire quel champignon, oui, est-ce qu'il est comestible ou pas, mais surtout les conseils, en fait, tout simplement, pour éviter qu'il y ait des ennuis pour les consommateurs.
Bon, on voit qu'on pourrait encore vous retenir en émission pendant 2 ou 3 heures, et vous reviendrez, voilà, j'ai personne de bien, merci beaucoup, et puis on pourra réécouter en attendant cette émission sur le site internet de Transistor, et le site s'appelle toujours radioévasion.net. Merci.
Bonne journée, merci.